Et bonjour tout le monde. Êtes-vous en forme? Oui. Bah, ça s'en vient le printemps. Deux semaines à geler encore. Après ça, on va commencer à dégeler. C'est bon? L'année dernière, comme cette année, on vous a lancé un défi. Et ce matin, on aimerait ça avoir un petit mot de témoignage. Je vais inviter notre sœur Lynn Forget à venir me rejoindre à l'avant. L'idée de se lancer le défi ensemble, d'aller dans la prière, puis de consulter Dieu, puis... Tiens Lynn, je vais te donner tout de suite ça. L'idée donc de consulter Dieu, puis de demander à Dieu de nous montrer des domaines où il est en train de travailler dans nos vies. On vous avait lancé ce défi-là l'année dernière, au début de l'année 2014, et plusieurs d'entre vous avaient consulté Dieu, vous êtes allés dans la prière, puis vous avez vu Dieu faire des choses dans votre vie. On est revenu avec ça cette année, on appelle ça « Plus comme Jésus » avec nos cartons, puis tout ça. Vers la fin de l'année, j'avais eu écho d'un beau témoignage de la part de Lynn de ce que Dieu avait fait dans sa vie à travers ça, puis comment elle avait vu l'œuvre de Dieu en elle. Et donc, on avait à cœur de vous encourager. C'est encourageant de voir ce que Dieu fait. Dieu fait de belles choses. Souvent, on le voit dans notre propre vie, mais on n'a pas l'opportunité d'entendre les témoignages des gens autour de nous. Alors, Lynn va nous partager en quelques minutes des belles bénédictions. Tu voudrais-tu juste nous introduire un petit peu, Lynn, puis nous partager qu'est-ce que ça a fait pour toi simplement d'être attentive en 2014 à ce que Dieu faisait?
Bien, quand vous nous avez proposé ce défi d'être plus comme Jésus, j'avais un fardeau sur mon cœur, une tristesse suite au décès de mon mari. Il est décédé dans la 21e année de notre mariage. Et je voulais que cette tristesse-là puisse partir. Fait que j'ai été à la croix. J'ai demandé à Jésus-Christ de changer cette tristesse par sa joie et par sa paix. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissante dans mon cœur envers Jésus-Christ. Je peux dire haut et fort et raconter toute cette belle merveille que Jésus a fait dans mon cœur. Il a libéré mon cœur. Mmh. Toute cette tristesse a été remplacée par sa joie, par sa paix. Et je peux penser, c'est sûr, je pense des fois, c'est 21 années, mais je n'ai plus cette mélancolie, plus cette lourdeur. Mon cœur est vraiment libre de tout. Et c'est ce que je voulais dire ce matin, comment qu'il avait été bon envers moi, comment qu'il avait été un refuge et un soutien. Et aussi, je veux remercier, parce qu'il y avait des gens qui priaient aussi pour moi quand que je leur avais proposé ce défi, quand vous nous avez proposé ce défi-là, et je leur ai proposé de prier pour moi. Et je peux dire que merci Seigneur, c'est fait. Et je vous exhorte à mettre ces défis aussi personnels devant Dieu, parce que Dieu libère et je ressemble plus à Jésus-Christ aujourd'hui parce que je suis dans le présent et je ne suis plus dans le passé. Et ce que j'ai vécu avec lui, c'est encore dans mon cœur, mais pour la gloire de Dieu.
Mmh. Merci, Lynn. C'est super beau. Merci. T'avais aussi un autre domaine. T'avais demandé au Seigneur de faire une œuvre dans ton cœur. Peut-être j'aimerais ça. Avant d'aller là, la question que je me posais en t'écoutant, c'est quoi la différence pour toi entre prendre une résolution? Mettons là, que tu te ramènes au début de 2014, puis tu portes ce deuil-là depuis plusieurs années. Ça serait quoi la différence que tu ferais entre prendre une résolution puis ce que tu as vécu? C'est quoi la nuance?
Je dirais que la nuance, c'est que je la vis. Ce n'est plus juste un projet que j'avais emmené devant Jésus-Christ, mais je l'accomplis. Il l'a accompli en moi et je le vis. Mm. Je dirais que souvent, on va emmener des projets devant Dieu, mais si on ne persévère pas dans la prière, on l'oublie, puis on oublie de s'attacher à ses bénédictions. Et là, je le vis au quotidien. Mm. Quand je rentre chez moi, j'ai la joie de rentrer. Mm. Avant, je ne l'avais pas. Et c'est pour ça que je dis que mon cœur est libre et qu'il a fait des merveilles dans ma vie, qu'aujourd'hui, j'ai l'opportunité de dire haut et fort que j'aime mon Sauveur, que j'aime mon Seigneur et que sa parole, elle est vivante. Mm. Et je la vis en moi par le Saint-Esprit. Fait que c'est ça. Fait que je le vis.
Tu avais un verset que tu voulais nous partager dans Ésaïe.
Oui, dans Ésaïe 41:10, ce verset-là me suivit beaucoup en 2014 et encore aujourd'hui. Et je l'ai pris personnellement pour moi, comme si Dieu l'avait écrit pour moi. Fait que je vais le dire comme ça, comme quand je me présentais dans la prière où ce que Jésus me disait. Lynn, sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Et je dis « Amen », parce que cette parole-là de la parole, je la vis au quotidien.
Merci beaucoup, Lynn. Merci pour ton témoignage. C'est très encourageant. On a besoin de voir comment Dieu travaille dans la vie des gens autour de nous, pas juste dans notre vie à nous. On a besoin de ces témoignages-là. Je vous invite à tourner avec moi dans la lettre aux Romains, l'épître aux Romains. Et on va écouter ensemble la parole de Dieu, simplement pour vous mettre dans le contexte, si vous vous joignez à nous. Et je vous encourage, lisez la lettre aux Romains pendant cette série-là, les prochains chapitres. Prenez toujours quelques chapitres d'avance. Vous allez voir qu'on couvre 16 chapitres en 11 exposés bibliques. Et donc, comme ce matin, vous allez l'entendre dans la lecture, on va couvrir une large portion des Écritures. Simplement pour vous remettre en contexte, lorsque Paul ouvre sa lettre qu'il a envoyée aux chrétiens de Rome, il leur a dit « J'ai sur mon cœur de venir vous annoncer une bonne nouvelle que vous connaissez déjà puisque vous êtes chrétiens, mais je vais vous amener ailleurs, je vais vous amener plus loin pour vous annoncer à nouveau l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. » Et Paul commence ensuite en établissant quel est le regard que Dieu dépose sur cette société-là, qui à l'époque était une société massivement païenne, on parle de l'Empire romain, et donc il adresse toute la question de « Oui, mais qu'en est-il de la responsabilité des hommes qui n'ont pas reçu la révélation de l'Ancien Testament, ceux qui ne sont pas juifs? » Comment sont-ils vus par Dieu? Est-ce que Dieu leur attribue une responsabilité? Et donc, Paul a bien établi que tous les hommes, dans une certaine mesure, connaissent Dieu simplement en considérant ses ouvrages, en considérant l'univers, en regardant l'être humain lui-même, sa place dans l'univers. Et ce que Paul a établi, c'est que, ne serait-ce que pour cela, l'être humain devrait être en train de chercher Dieu. Et ce qu'on observe dans l'histoire de l'humanité, plutôt, et c'était déjà très présent à l'époque pour Paul, il le voyait dans sa société, une culture où il y avait énormément de divinités, de petits dieux qui avaient été conçus. Bien, Paul observe ce qu'on voit à travers toutes les sociétés, que l'être humain s'est forgé des dieux. L'être humain s'est forgé des dieux à sa mesure, à sa ressemblance. Un dieu pour ceci, un dieu pour cela, pour le servir, pour s'assurer qu'il pourrait passer à tel ou tel guichet, à tel ou tel poste, à tel ou tel appel, à tel ou tel hôtel pour faire une demande selon les besoins, selon les circonstances. Et puis Paul dit, en fin de compte, vous êtes imaginé Dieu. Vous êtes créé des dieux sur mesure à votre ressemblance et vous avez perdu de vue celui qui est plus grand, plus beau au-dessus de tout cela. Et pour cette raison-là, Dieu a livré les hommes à eux-mêmes. Paul dit ce qu'on voit dans les sociétés qui ne vont pas, où il y a toute cette misère humaine, où l'homme s'en prend à l'homme, l'homme se détruit lui-même, des sociétés sont dans des cultures de destruction même, de domination. Tout ça, c'est le fruit du fait que Dieu s'est retiré et a livré l'homme à lui-même. Maintenant, dans la nouvelle portion du passage qu'on va voir ensemble ce matin, Paul va se tourner vers ceux qui regardent cette culture païenne-là un peu de haut et qui disent « Ah, Dieu, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, parce que moi, je suis juste. » On va écouter ensemble la parole de Dieu, on va écouter notre sœur Julie nous conduire dans Romains.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré du livre Romains, du chapitre 2 au chapitre 3, verset 20, édition Louis II. Romains du chapitre 2 au chapitre 3, verset 20. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qu'il est fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acceptation de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants. Parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Et toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne serait-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Quel est donc l'avantage des juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déclare sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là, au contraire, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal, afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché.
Merci, Julie. Beau passage. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te demander de venir éclairer notre intelligence, viens parler à nos cœurs ce matin afin que, Seigneur, nous acceptions de voir nos cœurs, de voir la situation de l'homme telle que toi tu la vois, Seigneur, afin que nos cœurs puissent aussi recevoir entièrement, vraiment, cette bonne nouvelle de l'Évangile. C'est en son précieux nom que nous te prions, Père. Amen. Le début de la lettre aux Romains, c'est une portion qui est dure. C'est lourd à entendre parce que Paul fait un constat. Il établit comment est-ce que Dieu voit les hommes. Puis il commence en disant qu'il est là pour nous annoncer une bonne nouvelle, mais on dirait que la bonne nouvelle tarde à venir. Puis ce qui est paradoxal ou ce qui peut sembler paradoxal, c'est qu'ici, Paul est en train de s'adresser à des chrétiens. En fait, dans le passage de ce matin, à un certain moment donné, il s'adresse clairement même aux Juifs. Donc, tu te dis, pourquoi est-ce qu'il est en train de prêcher ça à des chrétiens à ce moment-là? Pourquoi est-ce que Paul avait à cœur d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, à des gens qui, par nécessité, avaient déjà saisi l'Évangile? Autrement, tu ne peux pas devenir chrétien. Si on ne saisit pas vraiment profondément comment est-ce que Dieu regarde les hommes, regarde la société, regarde la culture dans laquelle on vit, regarde tous les efforts religieux que les hommes font pour être pieux, se tourner vers Dieu, regarde cette attitude assez naturelle chez l'être humain d'être religieux, notre religiosité qui revient facilement, même une fois chrétien. Quand je ne prends pas la mesure de cela comme il faut, quand je ne vois pas comment Dieu juge ça comme il faut, je ne peux pas aller puiser dans toute la puissance qu'il y a dans l'Évangile pour ma vie. J'oserais dire que je ne comprends pas vraiment l'Évangile de Jésus-Christ. Et comme on va le voir plus loin dans la lettre de Paul, ça va avoir un impact sur tous tes efforts pour vivre comme chrétien. Tous tes efforts pour marcher comme un chrétien. Si tu ne saisis pas entièrement comment est-ce que Dieu voit cette société, tu ne pourras pas jouir personnellement vraiment de la puissance de l'Évangile parce qu'il faut saisir comment Dieu voit nos cœurs, comment il voit notre société. Ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que tous les êtres humains sont à la fois, écoutez bien ceci, coupables et esclaves. Tous les êtres humains sur la terre sont à la fois coupables et esclaves du péché. Aucun d'entre nous ne connaît le chemin pour sortir de ce labyrinthe dans lequel nous sommes enfoncés. On a besoin d'un sérieux coup de pouce de la part de Dieu. La semaine dernière, comme j'ai mentionné tout à l'heure, avec le début de la lettre de Paul aux Romains, Paul couvre toute une grande partie de l'humanité, dans le fond. Tous ces hommes qui n'ont pas reçu cette révélation spéciale. La semaine dernière, on a parlé de cette révélation générale qu'on voit à travers la création, à travers l'univers, en examinant, en étudiant l'anatomie, l'être humain, toutes sortes de choses. On va parler d'une révélation générale. Dieu se fait connaître à tous les hommes à travers ses ouvrages en général. Et donc, la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est que Paul a établi que toute cette grande partie de l'humanité qui n'a pas reçu la révélation spéciale, qui est la parole de Dieu, les saintes écritures, la Bible, est coupable devant Dieu. La semaine dernière, Paul parlait aux païens. La grande majorité d'entre nous ici, parce que vous êtes toutes une gang de païens. Très peu d'entre nous ici sont juifs, n'est-ce pas? Et ce que Paul fait ce matin, c'est qu'il se tourne maintenant vers celui qui a reçu la révélation spéciale de Dieu. Et qui a tendance à dire, bien, parce que je suis de ce groupe d'individus-là qui a reçu la révélation de Dieu, moi, je suis correct. Moi, je suis safe. Et ce qu'on va voir ensemble, et c'est ça que Paul établit au début, c'est que souvent, les plus injustes, et là, quand je parle d'injuste, je parle de quelqu'un qui n'est pas droit devant Dieu. Souvent, les plus injustes des hommes, je vais prendre une vieille expression, c'est ceux qui estiment être des propres justes, qui se regardent eux-mêmes dans le miroir et qui disent « À cause de mes règles de vie, à cause de mes principes, ce sur quoi je bâtis ma vie, moi je suis juste devant Dieu. » Et bien souvent, ce sont les plus injustes d'entre tous les hommes et les plus durs, les plus malhonnêtes dans un certain sens, et c'est ça que Paul établit ici. Dans Romains 2:1, l'apôtre Paul dit ceci, je vous relis le verset 1. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Quand on essaie de comprendre et de connaître Dieu, une des choses qui est frappante, c'est l'énorme différence entre la justice de Dieu et la justice des hommes. On vit à une époque en Occident où on a tendance à dire, ben, il y a pas nécessairement de bien et de mal, on se donne des conventions sociales, on n'est pas là pour juger. Hein? Moi, je suis pas là pour juger ta vie, t'es pas là pour juger la mienne. Ce qui est bon pour toi, c'est bon pour toi. Ce qui est pas bon pour toi, ça l'est peut-être pas. Mais en fait, on passe notre temps à juger. La vérité, c'est qu'on passe notre temps à juger. Ça m'a frappé hier, j'étais en train de lire la presse, puis je ne sais pas si vous suivez un peu le conflit terrible qu'il y a actuellement en Ukraine. Puis on a des frères et sœurs ici de l'Église qui viennent de là-bas et donc ils sont extrêmement informés. Et donc, il y a deux articles qui paraissent aujourd'hui et hier sur la perspective que les Russes ont de ce conflit-là. Et je ne veux pas faire un jugement moral à ce moment-ci, même si j'ai mon opinion comme chrétien, j'ai mon opinion comme occidental. Mais l'article, ce qu'il disait, c'est que avec ce qui est en train de se passer là-bas, pour beaucoup de Russes, probablement pas pour tous les Russes, mais pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de Russes, Poutine est vraiment un héros. Il est absolument un héros. Et donc, l'article présentait des images où il y a vraiment toute une business qui est faite autour de ce héros-là. Ici, on a Poutine qui pratique les arts martiaux. Pour ceci, au moins, je peux le respecter. Mais si on peut revenir à l'image avant, s'il vous plaît. Il est en train de mettre au sol avec une prise de judo Barack Obama. Et donc, ce que l'article souligne, c'est que actuellement, avec les positions qu'il prend, dans la perspective de beaucoup de Russes, il est absolument un héros. Et si on allait s'asseoir avec ces gens-là, vous voyez où je m'en vais, si j'allais m'asseoir avec ces gens-là, si je leur demandais, est-ce que c'est juste ce qu'il est en train de faire? Sans l'ombre d'un doute, ces gens-là me diraient définitivement, c'est la justice qui est exercée ici. Et voyez-vous, beaucoup d'Occidentaux regardent ce conflit-là de l'autre perspective complètement, puis on regarde ça, puis on dit, mais c'est profondément injuste ce qui est en train de se faire là. Et on serait bien mal pris. On serait bien mal pris de réussir à établir et tout le monde à s'entendre sur ce qui est juste et injuste dans tout ceci. Mais à partir du moment où on suit un peu les médias, à partir du moment où on suit un peu les informations, on a tous une opinion à savoir ce qui est juste ou injuste. Et quand vous commencez à lire les journaux avec cette paire de lunettes-là pour juste être attentif, combien de jugements on pose? Combien de fois l'être humain pose un jugement sur ce qui est bien ou mal? C'est constant. On le fait des dizaines et des dizaines de fois à tous les jours. Chrétien, non chrétien, quelle que soit ta religion, que tu sois athée ou croyant, tu poses des jugements. Tu poses des jugements sur les religions. Si t'es athée, tu dis, voilà peut-être un des pires maux de l'humanité, une fonction, un facteur d'abrutissement des hommes. Tout un jugement, ça. Si tu es croyant, tu poses des questions à la lumière du système de valeurs de ce qui est enseigné dans ta religion. L'être humain passe son temps à poser des jugements. Et une des grandes difficultés, on le vit sur le plan des relations interpersonnelles, c'est de savoir, oui, mais c'est quoi qui est juste finalement? Écoute, si tu ne l'as pas expérimenté, c'est peut-être que tu n'as pas de frères et sœurs. Si tu ne l'as pas expérimenté, c'est peut-être que tu n'es pas marié. Mais laisse-moi te dire qu'après une couple d'années de mariage, tu vas savoir que c'est souvent difficile de déterminer ensemble en couple c'est quoi qui est juste. Très difficile. Si ma femme m'écoutait un petit peu plus, elle comprendrait c'est quoi la justice. Très dur. Très, très difficile. Pour les hommes. Les êtres humains. Les femmes aussi. On entend bien ce qu'on veut, hein? Et ce que Paul me dit, c'est qu'en réalité, il y a un Dieu qui existe. Et dans le simple fait qu'on juge tellement important de juger, dans le simple fait que même la personne qui ne croit pas dans l'existence de Dieu trouve absolument fondamental pour construire une société de juger du bien ou du mal, de ce qu'un peuple fait à un autre peuple, des comportements, des libertés ou non, des libertés acceptables ou non acceptables. Dans ce simple fait-là, il y a un écho en nous qu'il y a un être supérieur, un Dieu créateur qui juge. Et ce que Paul nous dit ici, c'est qu'il y a une justice divine. C'est qu'un jour, tous les hommes se présenteront devant un Dieu qui voit absolument clair et qui sait toujours ce qui est vraiment juste parce qu'il n'est pas partial, lui-même étant saint et juste. Lorsqu'on lit la Bible, l'une des premières choses qu'on apprend en rencontrant le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens, c'est qu'il y a un Dieu saint qui existe et lui, il est absolument impartial. Et ce Dieu-là va demander à tous les hommes un jour justice, de rendre des comptes. Et ce que Paul est en train de dire ici, tout simplement, il dit, écoute, sérieusement, si tu penses que parce que tu as ta petite religion, puis tu as ton petit jugement sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, parce que tu as ton code de conduite que tu consultes tous les jours, et tu penses que parce que tu as ce discernement-là, ça te met au-dessus du reste des hommes qui n'ont pas reçu cette lumière-là, cette révélation spéciale-là. Eh mon homme, cette lucidité que tu as sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, c'est ton propre jugement sur toi-même, parce que toi-même tu pèches considérablement, et t'ajoutes à cela le fait que tu prétends être au-dessus de tout le monde. Espèce d'hypocrite. Les plus injustes sont souvent les propres justes. Et finalement, ce que Paul est en train de dire, c'est que ta religion, tes beaux principes, te condamnent plus qu'ils ne te justifient. Parce que tu ne vois pas tes angles morts, puis tu juges les gens autour de toi grâce à cette loi-là. Paul va établir que la loi est bonne, on va revenir à ça plus tard. On n'est pas en train de dire que la loi est mauvaise, que les préceptes de la parole de Dieu sont mauvais. Ce qu'on est en train de dire, c'est que par nature, l'être humain ne va pas se servir de ça vraiment pour faire le bien. Et lorsque Paul dit que celui qui a sa petite religion est en train de commettre les mêmes fautes, voire pire encore que celui qui ne l'a pas. Je crois qu'il est en train de faire référence essentiellement à Romains 1, 28, 29, 30, 31. Je vous les relis très rapidement. « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. » J'ai l'impression de lire tout l'Ancien Testament. Je n'ai pas l'impression juste de lire l'histoire de l'humanité sans Dieu. J'ai l'impression de lire l'histoire d'Israël quand je lis ça. Et donc, Paul va dire au verset 14 et 15, Romains 2, 14, 15, « Quand les païens qui n'ont point de loi, ils n'ont pas reçu cette révélation spéciale, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Si d'une part, Paul a établi que l'être humain livré à lui-même, lorsqu'il ne cherche pas Dieu, se met à déraisonner, son cœur est livré à la folie. D'autre part, Paul dit quand même, l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et même celui qui n'a pas reçu la parole de Dieu, qui n'a pas reçu cette révélation-là, par moment, est en train d'écouter sa conscience et cette loi qui est placée dans son cœur. C'est ce qu'il fait. C'est pour ça que je vous dis que quelles que soient les sociétés, on passe notre temps à dire « ça c'est bien, ça c'est mal, ceux qui font ça c'est mal, une société ne devrait pas faire ça, ici il y a de l'injustice, voici ce qui est juste. » C'est écrit dans le cœur de l'homme, ça. Et donc, Paul est en train de dire, tu comprends pas que même s'ils n'ont pas reçu la Bible, Des fois, ils te regardent aller, mon religieux, puis ils disent, t'es rien qu'un hypocrite. Parce que tu prétends être rempli de discernement avec ta loi. Wow! Je t'ai vu aller l'autre fois, comment tu parlais à ta femme. Ouh! Ça t'a donné plein de discernement à ta parole. J'ai vu l'autre fois avec tes enfants. Ouais, puis cette affaire-là, c'est pas en dessous de la table que tu le fais. C'est comme ça que ça construit une business, un chrétien. La vérité, c'est que cette loi-là est dans le cœur aussi de tous les êtres humains. Et donc, Paul est en train de dire, tout ce que ça va faire, c'est que ça va démontrer ta religion, tes beaux principes te condamnent plus qu'ils te justifient. Parce qu'on est trouvé en défaut. On est trouvé en défaut de ça. Puis en même temps, si tu dis, moi, je ne crois pas dans la Bible, puis tu dis, je ne crois pas à tout ça, tu sais, fait que j'ai pas ce problème-là du religieux qui pense être son propre juste. La réflexion que j'avais cette semaine, c'est que je me disais, c'est pas tout à fait vrai, tu vois, parce que lorsque tu dis, je suis supérieur aux religieux parce que je ne suis pas tombé dans la bêtise de la foi, if! Moi, je comprends juste que tu as une autre religion, puis tu es aussi un propre juste. Tu as déterminé quelle est la justice, le droit, l'intelligence, puis tu juges tous les épais qui ne pensent pas comme toi. Fait que ça sonne pas mal propre juste aussi, cette affaire-là. Par défaut, l'être humain veut s'élever au-dessus des autres et se trouver plus sage et plus intelligent que les autres. Et je pense que c'est un phénomène universel. Donc, ce que Paul est en train d'établir, c'est qu'en vérité, la vérité, c'est que Dieu appelle tous les hommes à la repentance. Qu'ils soient connaissants de la parole de Dieu ou qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, Dieu appelle tous les hommes à la repentance. Verset 4, Romains 2, 4. « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? » Écoute, ce matin, tu t'es levé. Tu n'as pas beaucoup de mérite dans le fait que tu respires de l'oxygène. Aujourd'hui, tu as des projets, je ne sais pas qu'est-ce que tu prévois faire cet après-midi, tu as quelques loisirs en tête, tu es en train de planifier tes vacances pour te sauver du froid puis aller dans le sud, ou tu penses à l'été prochain, tu as des projets d'avenir, tu as des rêves. Bon, tu as un peu contribué à tout ça. Si tu étais né dans d'autres circonstances, dans un autre pays, à une autre époque, tu réaliserais que la providence divine est pour beaucoup. Tu peux l'appeler le hasard si tu veux, moi je l'appelle la providence divine. Et pour beaucoup. Et donc, ce que Paul dit ici, c'est, et il s'adresse ici aux religieux, il s'adresse ici aux Juifs qui connaissent justement les bontés de Dieu, mais on peut l'appliquer à tous les hommes. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Que je sois sans connaître le Dieu qui se fait connaître à travers la Bible, ou que je connaisse le Dieu de la Bible, la bonté de Dieu envers l'humanité, malgré toutes les souffrances qu'il y a, la bonté de Dieu envers les hommes, tout ce qu'il nous donne matin après matin, le soleil qui se lève, la vie qu'il nous prête, et à celui qui connaît la parole de Dieu encore plus, tout ça devrait éveiller en nous un profond sentiment de gratitude. Lorsque Paul parle de repentance, ce que Paul est en train de dire ici, c'est que tout ça, là, ça devrait m'amener à détourner les regards de moi, arrêter de penser que je suis sacoche, puis que je suis bon, puis que je suis meilleur que tout le monde, et je devrais prendre la mesure de ce que je suis comme personne. Quelqu'un de faillible, quelqu'un qui pêche, quelqu'un qui manque, quelqu'un qui est imparfait, quelqu'un qui est parfois mesquin, méchant, égoïste. Quelqu'un qui, par nature, n'a pas une piété profonde, une crainte de Dieu qui dit « Dieu, t'es tellement beau, je suis tellement pas comme ça, j'aimerais être comme toi, enseigne-moi à marcher dans tes voies, je veux être comme toi à chaque instant, Seigneur. » Et ce que Paul est en train de dire, en fin de compte, c'est que Dieu appelle tous les hommes à la repentance. Ce qu'il est en train d'établir ici, tout simplement, Paul est en train d'établir que nous sommes tous coupables devant Dieu. C'est une attitude de cœur que, comme chrétien, je ne dois jamais quitter. Vous savez, une des choses qu'on rêve à l'Église de l'Espoir, c'est d'avoir l'opportunité, d'avoir le privilège de s'investir dans la vie d'autres personnes puis de faire des disciples. D'accord? Puis des fois, comme chrétien, on a de la difficulté avec cette idée-là de dire, OK, Yannick, il dit qu'il a utilisé une expression imitateur, observé. Qui je suis, moi, pour dire à quelqu'un, viens m'examiner, viens regarder ma vie? Je peux refaire tout le cas avec vous, la défense de ça, si vous voulez. C'est clair dans les Écritures. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Puis c'est très clair dans les Écritures que je suis appelé à être un exemple, pas moi comme pasteur, moi comme chrétien, pour mes enfants, mon épouse, les gens autour de moi, tout ça. Mais en même temps, comment est-ce que je vais pouvoir entrer dans ce rôle-là, l'assumer vraiment? C'est en ne tombant jamais dans le panneau du propre juste, du religieux qui regarde les autres de haut. Je dois réaliser que je suis vraiment comme le reste des hommes et cette connaissance de plus que j'ai de la parole de Dieu, parce que je suis dans la Bible semaine après semaine, parce que j'écoute des exposés bibliques, parce que j'ai un discernement qui m'a été donné. Si c'était ça qui devait me juger, je serais pareil comme le reste des hommes, voire pire encore. Et c'est parce que je ne quitte pas cette attitude-là. Humble, qui dit, Seigneur, ta loi, si elle était là pour me juger, me condamne. Je sais que je suis faillible. Je sais que je manque moi aussi. Je sais que j'ai péché tout dernièrement, Seigneur. Et si ta loi est là pour me juger comme un standard, je suis pire encore que le reste des hommes parce que j'ai ce discernement-là. Et dans la mesure où je garde cette attitude-là, puis je m'en vais puiser la grâce dans l'Évangile, j'ai pas à craindre d'être un imitateur observé. J'ai pas à craindre d'offrir ma vie en exemple aux gens parce que c'est pas fait avec prétention. La première chose que je vais dire à quelqu'un qui me dit « Regarde, Yannick, je suis pas comme toi, j'y arrive juste pas. » Quand t'as fini, je vais te raconter mon histoire. Tu vas découvrir que moi, j'y arrive juste pas. Quand je fais quelque chose de bien, c'est l'Esprit de Dieu qui vient le produire dans ce cœur nouveau-là qu'il m'a donné. Et donc, je peux accepter à ce moment-là de présenter ma vie comme un modèle, non pas de perfection, mais d'humilité et de grâce, tout simplement. Et donc, Paul établit que tous les hommes sont sous l'empire du péché. Je vais attirer votre attention non seulement sur le fait qu'on est tous coupables, parce que c'est important, si on traite la question du péché dans les Écritures seulement comme de la culpabilité, il y a un aspect énorme de l'Évangile que je n'arriverai pas à saisir. Romains 3, chapitre 3, versets 9 à 12. Paul tranche, Paul termine en disant, « Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste. » Si la justice, c'est d'obéir parfaitement à la loi de Dieu, il n'y en a pas de juste. Il y a ceux qui ne connaissent pas la loi puis qui pêchent, il y a ceux qui connaissent la loi puis qui pêchent. Aucun n'est juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu profondément dans son âme. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et je veux attirer votre attention sur le verset 9. Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Lorsqu'on arrive au chapitre 3 de Romains, Paul arrive à la conclusion de son argument. Dans Romains 1, il établit que tous ceux qui sont sans la parole de Dieu, sont coupables, parce que déjà ce qu'ils connaissent de Dieu devrait les conduire à chercher Dieu. Et ensuite de ceux qui ont reçu la révélation de Dieu sont coupables, parce qu'ils savent beaucoup plus et beaucoup mieux, devraient donc être en train d'obéir s'ils le pouvaient par eux-mêmes. Mais non seulement au verset 9, il nous dit que nous sommes tous coupables, mais il dit aussi que nous sommes esclaves. Et ça, c'est super important. C'est super important pour comprendre l'Évangile. Verset 9, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que juifs et grecs, les religieux, ceux qui ont la révélation, les païens, sont sous l'empire du péché. » Tous les hommes sont esclaves du péché. Pour comprendre le péché dans les Écritures, j'ai besoin de réaliser que il y a vraiment deux dimensions constantes. Il y a la culpabilité puis l'esclavage. Souvent, j'ai donné cet exemple-là pour parler des conséquences du péché. Souvent, j'ai donné cet exemple-là en disant, quand je pêche, si je suis marié, j'ai des enfants, je vis en communauté, tout ça, la première victime de mon péché, c'est moi. Je peux pécher contre Dieu. Donc, dans ce sens-là, je déshonore Dieu. Sur le plan humain, là, si je fais du mal à mon épouse, déjà, moi, je suis victime de mon péché. Je suis coupable. Mais ce que j'ai fait de mal entraîne un paquet de choses à l'intérieur de moi. Et tu réalises ça encore plus quand tu commences à lire les Écritures, puis là tu vois ce qui est la bonne chose à faire, puis là, tu dis, « OK, je vais réussir à faire ça. » Martin Luther, grand réformateur allemand qui a redécouvert en étudiant la lettre aux Romains, c'était un prof de théologie dans un séminaire catholique, il enseignait la lettre aux Romains, et comme un bon catholique, tous les soirs, il faisait son bilan de la journée, puis il connaissait la loi de Dieu, puis tous les soirs, il se flagellait, il se battait lui-même parce qu'il disait « j'ai pas atteint les standards, j'ai pas réussi, et donc il va falloir que je m'auto-punisse moi-même pour tout ce que j'ai fait de mal ». Cette loi-là pesait sur ses épaules. Martin Luther savait très bien qu'il était esclave du péché et que la religion, définir le bien et le mal, la crainte de Dieu, essayer par mes propres efforts de faire le bien, de m'auto-transformer moi-même, ça ne marche pas. Parce que Martin Luther, soir après soir, avec un cœur entièrement dévoué à marcher dans la sainteté, était confronté au fait qu'il en était incapable par lui-même. Parce qu'il savait que le cœur humain est esclave du péché. Alors, si dans ta vision de la religion, du christianisme, si dans ta vision de la foi, tu vois ça fondamentalement comme une manière d'avoir plus de discernement, plus de sagesse, pour pouvoir discerner le bien et le mal. Si fondamentalement, c'est là que tu t'en vas, ta religion va te condamner totalement. Ta connaissance de Dieu va simplement servir à établir ta culpabilité. Il n'y a aucun homme, aucune femme sur la terre qui va pouvoir avoir réussi par sa vie à se bâtir un dossier pour dire le jour où je me présente devant Dieu, « Man, mon dossier est bon. Je pense que c'est a done deal. Tout est correct. Tu sais. I worked hard. J'ai vraiment mis toute ma vie là-dessus. Puis je suis sac, coche, copain. J'ai hâte qu'il lise mon dossier. Je pense qu'il y a des médailles qui s'en viennent. » Toute notre vie et notre poursuite de la sainteté, si c'est ça qui est le standard sur lequel je vais être jugé, ne va servir qu'à établir ma culpabilité et le fait que je suis esclave du péché. Et ce n'est qu'au moment où je commence à saisir ça que je peux commencer à comprendre la bonne nouvelle de Dieu. Il y a vraiment un beau verset, un petit peu plus loin dans le passage. J'ai appelé ça le chemin de la paix, au verset 17. Au verset 17, Paul est en train de citer toute une série de psaumes. Il se promène un peu partout, il fait un drôle d'amalgame ici, puis ça, j'avais pas le temps d'aller comme établir d'où vient chacun des passages, tout ça. Mais au verset 17, on lit, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Oui, l'être humain devrait craindre Dieu parce qu'il devrait être conscient que toute sa propre justice, tous les jugements qu'il établit sur tout le monde, sa femme, ses enfants, son épouse, son époux, la société, les gens autour de lui, ça le condamne tout autant qu'il peut voir juste, il voit faux. Puis de tous les péchés que tu vois dans ta vie, c'est juste la pointe de l'iceberg. Tous tes péchés par omission, tu ne les vois pas. Il y a beaucoup de gens autour de toi qui en voient plein. Puis qui t'endure. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. L'image qui m'est venue à l'esprit cette semaine, c'est l'image d'un labyrinthe. Je l'ai souvent dit à l'Église parce que je l'ai souvent partagé parce que j'ai vécu ça à plusieurs reprises comme chrétien, d'accord? Ce que Paul est en train d'exprimer ici, c'est que le péché, ne fait pas seulement qu'on est coupable. Le péché a un pouvoir d'aveuglement sur le cœur de l'homme. Et donc, tous les êtres humains sur la terre, religieux, non religieux, prétendant connaître la Bible ou non, chacun d'entre nous, on est pris dans ce labyrinthe-là. Et on n'a absolument aucune idée quel est le chemin pour sortir du labyrinthe et se rendre à Dieu. On n'est pas capable par nous-mêmes de trouver ce chemin-là parce qu'on est pris sous l'empire du péché. Et si ma connaissance des Écritures m'amène à simplement regarder la société autour de moi avec un certain mépris, de la condescendance en regardant les gens et en disant « pauvres, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles », la réalité, c'est que j'oublie que moi-même, je me trompe facilement. J'ai utilisé cette illustration-là à plusieurs reprises avec vous parce que je crois aussi que qu'il arrive dans la vie chrétienne. Ça fait plus de 20 ans que je connais le Seigneur. Personnellement, j'ai donné ma vie à Christ, puis j'ai reçu cette bonne nouvelle-là de Dieu dans ma vie. Mais il y a des moments dans ma vie chrétienne où je me laisse emporter par un péché, puis mon cœur se refroidit, puis si on peut revenir à l'image du labyrinthe, c'est vraiment mon sentiment profond. Je connais la parole, fait que je sais que mon bonheur se trouve à être près de Dieu, mais je me trouve au beau milieu de ce labyrinthe-là, puis la seule prière que je peux faire, c'est « Jésus, je connais pas le chemin pour me retourner à toi. » Je suis abruti. Je suis abruti par mon péché, je suis stupide. Puis je connais pas le chemin. Je connais la théorie. Je l'enseigne à tous les dimanches, tu sais. Je connais la théorie, mais mon cœur n'est pas capable de trouver ce chemin-là. Et ça aussi, je crois que c'est fondamental si on veut accueillir les gens, si on veut aimer les gens, si on veut faire des disciples, on ne doit jamais perdre de vue que cette expérience-là, de cet aveuglement-là où le péché nous enveloppe, notre cœur se refroidit, on n'écoute plus l'Esprit de Dieu, c'est pas simplement l'état de celui qui ne connaît pas Dieu. Paul va l'établir plus loin dans Romains, c'est aussi l'état de celui qui n'écoute plus Dieu. Mais ce que Paul est en train de dire ici concrètement, c'est que tous les êtres humains sont incapables de trouver le chemin de la paix pour sortir de ce labyrinthe-là et se rendre à Dieu. Et on arrive à cet endroit-là dans la lettre où il y a cette tension. Il y a une tension parce que tu n'as pas le choix de dire, si tu comprends bien le message de Paul, qu'on va avoir besoin d'un sérieux coup de pouce si on veut sortir de là. Il va falloir que quelqu'un vienne nous rejoindre dans notre labyrinthe, là où on est sous l'empire du péché. Quelqu'un qui va venir marcher parmi les hommes, qui va prendre la nature humaine et qui va venir nous prendre par la main pour nous sortir de là. Je dépasse mon texte un petit peu ce matin. On va continuer la lecture au verset 21. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, je ne sais pas si venir à l'église, c'est une religion pour toi, c'est une vieille religion où tu cherches quelques guides, quelques principes. Je ne sais pas si c'est la religion de tes parents. Puis tu te dis, ouais, ça reste des bons repères, c'est bon de ne pas perdre les repères. Il y en a qui disent que ceux qui ne croient pas en Dieu ont perdu tous les repères. C'est bon d'avoir ces repères-là. La vérité de ce que nous dit Paul, c'est que tu es dans ce labyrinthe-là, au beau centre. Puis si tu crois en Dieu, bien déjà, tu vois une lumière quelque part. Mais tu auras beau t'époumoner toute ta vie à chercher, par tes propres efforts, à trouver la sortie de ce labyrinthe-là, tu ne le trouveras pas. Tu vas avoir besoin que quelqu'un vienne te rejoindre au cœur du labyrinthe de ton péché, de ta folie, de cet esclavage-là que tu as du péché. Que quelqu'un vienne te rejoindre là et qu'il t'ouvre le chemin. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu faire. Dans Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu es là, dans ce labyrinthe-là, tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à faire, c'est tourner les regards vers Jésus-Christ. Reconnaître que tu es coupable comme moi. Puis si c'est juste par tes propres forces, mon moron, tu ne te rendras pas loin. Parce que lorsque tu vas te présenter devant Dieu, tu vas être trouvé coupable comme moi. De tourner vers Jésus-Christ puis dire, « Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu viennes me rejoindre au cœur de mon labyrinthe parce que je n'arrive pas à construire quelque chose qui te ressemble par moi-même. Avec mes mains, je détruis, je ne construis pas. Avec mes mains, je suis trouvé coupable, non saint et juste. Et j'ai besoin de ta grâce, de ta justice. » Tu montes le chemin pour sortir d'ici, pour me rendre jusqu'à Dieu. Et si tu es dans ce labyrinthe-là parce que tu as arrêté d'écouter l'Esprit-Saint, tu connais, toi qui juges les hommes, toi qui as du discernement, tu connais la vérité de l'Évangile, la bonne nouvelle. Mais dans ton cœur, tu le sais, tu es en lutte, tu es en proie avec un péché qui t'a engourdi. Tu es au milieu de ce labyrinthe-là. C'est la même chose. Humblement, considère les bontés de Dieu envers toi, repens-toi et demande à Christ, dans sa grâce, de venir réveiller ton cœur, t'amener à confesser ses péchés et lui demander de te secourir. On va passer à la louange ensemble, mais j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble. Simplement se recueillir avant d'adorer le Seigneur Jésus pour cette belle, bonne nouvelle pour les hommes. Seigneur Jésus, ce que l'apôtre Paul établit ici, c'est que tu n'es pas seulement mon chemin, ma vérité, ma vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, pour cette nuit de fin d'année, il y a plus de 20 ans, où j'avais ce sentiment profond de détruire et de ne pas construire. J'étais confronté au fait dans mon propre cœur que je ne parvenais pas à marcher droit, Seigneur. Et tu m'as accordé cette grâce de la repentance. Tu as ouvert mes yeux pour que je voie ma propre faiblesse, ma culpabilité devant toi, et le fait que je suis sous l'empire du péché. Que je l'étais, Seigneur. Je remercie, Seigneur Jésus, d'avoir ouvert les yeux de mon cœur et d'avoir placé en moi ce désir de t'appeler à mon secours, Seigneur. De réclamer ta grâce, de réclamer ta direction, de réclamer ta lumière, Seigneur, de réclamer ton pardon. Je prie, Père, pour tous ceux qui sont ici avec nous ce matin et qui se sont privés jusqu'à présent, Seigneur, de crier à toi, de demander ta grâce, ton pardon, Seigneur. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux de leur cœur afin qu'ils saisissent que, comme moi, ils ont besoin de toi. Et je te prie, Seigneur, pour ceux d'entre nous qui te connaissent, qui ont saisi l'Évangile, mais qui se sont laissés envelopper par un péché quelconque. Leur cœur s'est refroidi, l'esprit est rendu une voix faible, un écho distant. Venir à l'église, c'est plus de la culpabilité que de l'adoration et de la célébration, Seigneur. Accorde-leur la grâce ce matin, Seigneur, de se repentir profondément et de saisir ta grâce. C'est en Jésus qu'on te prie.